Bonjour à toutes et à tous. Il est 12h30 pile. Voilà, donc sur le film, tout est impeccable, tout est sous contrôle. Bienvenue à la Galerie Eureka et bienvenue à ce nouveau rendez-vous entre midi et science qui s'inscrit ce mois-ci dans la semaine du cerveau. Donc pour nous, chaque année, c'est l'occasion justement d'interroger les neurosciences à cette occasion. Et pour le coup, nous avons la chance d'avoir parmi nous le docteur Laurent Vercueil qui a eu juste une toute petite fenêtre météo pour nous ce midi. Donc merci beaucoup d'avoir fait l'aller-retour à fond les manettes depuis Grenoble. Donc Laurent Vercueil est neurologue au CHU de Grenoble. C'est un chercheur également à l'INSERM. C'est également aussi un grand vulgarisateur scientifique. J'ai quelques ouvrages que j'ai sous la main. Je ne les ai pas tous, hein, mais voilà. Si vous voulez découvrir les neurosciences, je vous conseille vraiment Chatouille et Petits autres tracas neurologiques. Une collaboration avec un auteur de bande dessinée passionnant, donc un petit vélo dans la tête, donc c'est finalement une journée ordinaire, enfin la journée ordinaire d'un cerveau humain. Et je ne l'ai pas là, mais quelqu'un me l'a emprunté. C'est La Belle au bois dormant, non, La Belle au bois d'Hortel vraiment. Donc voilà, des ouvrages passionnants que je vous invite à découvrir. C'est pas l'objet du jour. Ce qui nous intéressait, et voilà pourquoi on vous a invité, c'était pour parler de l'effet placebo, que l'on associe généralement aux médecines, on va dire, pas surnaturelles, alternatives. Voilà, j'ai perdu le nom. Et pourtant, l'effet placebo est aussi associé à la médecine, on va dire, plus classique, dite conventionnelle. Alors, on avait vraiment envie de vous questionner sur ce sujet, à la fois pour peut-être nous redéfinir ce qu'est l'effet placebo, en quoi est-elle utile ou quelles sont ses limites. Voilà toutes ces questions que nous nous posons. C'est le principe du café débat entre midi et science. Donc, vous avez une petite demi-heure pour nous poser un petit peu quelques bases sur ce sujet. Et on garde l'autre partie du temps justement pour échanger avec vous, vous questionner et débattre sur ce sujet. Merci beaucoup en tout cas d'être venu jusqu'à Chambéry et je vous laisse la parole.
Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravi d'être ici. Merci à l'équipe et puis bien sûr au Café Science qui sont des gens que je connais bien et que j'apprécie beaucoup. Oui, donc le sujet, c'est un sujet qui est vraiment, à mon sens, fascinant et qui en fait est quelque chose qui non seulement déborde largement le cadre des médecines alternatives, puisque c'est inhérent à la médecine, mais en fait qui constitue la majorité de l'histoire de la médecine, puisque en fait les premiers traitements efficaces utilisés en médecine, ça remonte à 300-400 ans, pas plus. Auparavant, toute la médecine antique, la médecine, alors qu'il y avait des savoirs, il y avait des connaissances, toute la médecine reposait sur cet effet placebo. Toute. Alors, vous allez voir que, effectivement, la question que je vais poser, c'est est-ce que ça marche ? C'est une question que je vais traiter très rapidement. Bien sûr, ça marche. Voilà, c'est fait. Merci. Au revoir. En fait, la question la plus intéressante, c'est comment ça marche ? Pourquoi ça marche ? Et c'est de ça que je vais surtout discuter. Placebo, c'est l'indicatif, le futur de l'indicatif, c'est je plairai. Je plairai. C'est pas je plais. Placere, c'est le latin plaire. C'est je plairai. Ayez bien ça en tête. Ça veut dire je vais plaire. Ça veut dire que ça vous projette tout de suite sur ce qui va arriver. Et ça, c'est majeur dans l'effet placebo et dans l'effet nocebo. L'effet nocebo, c'est le miroir du placebo. Placebo, ce qui va arriver, ça va être super. On se prépare à ce que ça soit génial. Nocebo, c'est ouh, attention, ça va être sacrément pénible, ça va se passer mal. Et en fait, les deux sont c'est la même chose qui se passe. Parce que ce qui est derrière, c'est quelque chose dont je vais beaucoup parler, qui sont les attentes. Alors, ouais, ça marche. Je vais commencer avec un petit cas clinique qui était rapporté dans un journal américain qui raconte l'histoire suivante. Un sujet arrive aux urgences complètement affolé. Il vient d'absorber le contenu d'une boîte de médicaments qu'il avait, qui était une boîte de médicaments pris à titre expérimental, dans le cadre d'un essai clinique, contre la dépression. Donc un sujet qui avait sûrement des troubles de l'humeur, etc. Et puis là, brutalement, marre, allez, j'avale 29 comprimés de la boîte. Il arrive aux urgences, il est très très mal. Il est très très mal, il inquiète, hein, et donc il dit « Help me, I took all my pills », aidez-moi, j'ai pris tous mes comprimés, et il commence à perdre connaissance. Il a un pouls qui est effondré, et vraiment les réanimateurs qui sont là sont inquiets sur son état, et donc ils vont procéder, on a le droit de faire ça, à une levée d'aveugle. Levée d'aveugle, c'est pendant un essai clinique, hein, vous savez que l'un essai clinique conduit, je reviendrai, hein, compare un médicament avec un placebo, mais ça c'est en aveugle, c'est-à-dire que ni le médecin qui donne le médicament, ni le patient ne sait s'il prend le placebo ou pas, sinon on perd un petit peu cet effet comparateur. Donc dans les cas comme ça d'extrême urgence, il peut y avoir une procédure de levée d'aveugle, c'est-à-dire qu'on contacte le laboratoire qui conduit l'étude, et le laboratoire dit, ben voilà, ce patient, il était dans le groupe qui a pris ça. Et là, on apprend, vous avez deviné, que le type était dans le groupe placebo. Effectivement, dès qu'il apprend qu'il est dans le groupe placebo, ça va beaucoup mieux, et finalement, il pourra sortir sans complication. Mais l'état physique dans lequel il était, qui était donc dû à rien, hein, c'est ce qu'on appelle un effet nocebo, en l'occurrence, c'était un placebo qui est devenu nocebo, et quelque chose qui était physiquement mesurable. C'est-à-dire que les gens prenaient des tensions, et disaient la tension est très basse, et puis il était en difficulté respiratoire, il était au bord du coma, avec un état de conscience altéré. Vous voyez, c'est des choses qui sont physiquement mesurables, c'est des vrais effets d'une croyance, je vais mourir parce que j'ai pris trop de médicaments, sur le corps. Donc, alors, ça, c'est quelque chose quand même qui remonte à pas mal de temps. D'une part, le fait qu'on sait que les croyances ont un effet sur notre corps, et d'autre part, le fait qu'on peut utiliser ces croyances pour déterminer, par exemple, l'état dans lequel les sujets sont. Au XVIe siècle, ça, j'ai repris un petit article d'un pharmacologue à l'Académie de médecine, au XVIe siècle, afin de faire le tri entre des gens qui seraient de véritables possédés et des gens qui auraient juste l'allure de posséder, ben, les ecclésiastiques, hein, ont eu l'idée de prendre des reliques. Hein, en gros, si on approche des gens, des croix, des reliques, etc., si on est possédé, ben, le démon va se manifester avec beaucoup de troubles. Et si on présente des fausses reliques, des choses dont on fait croire au sujet que c'est des reliques, comment est-ce qu'il va se comporter? Et bien, si ça ne lui fait rien, c'est qu'effectivement, c'est le démon qui était là, puisque le démon sait si c'est des vraies ou des fausses reliques. Si par contre, il s'agite à nouveau, parce qu'il est censé être possédé, c'est que ça n'est pas un vrai possédé. Vous voyez que cette notion un peu de placebo, c'était utilisé depuis longtemps, puis en fait, peu de temps après, ça a vraiment eu des conséquences pratiques, et notamment avec l'histoire du scorbut, et James Lind, qui était un médecin de la marine anglaise. Et le scorbut, vous savez, c'était une maladie très très grave, très sévère, des marins qui partaient au long cours, parce qu'en fait, ils étaient privés de vitamine C, hein, et petit à petit, ils perdaient leur... Et le temps qu'on comprenne qu'il fallait emmener des caisses d'agrumes de manière à rapporter cette vitamine C pendant le voyage, ben, il y a eu beaucoup, beaucoup de complications. Et en fait, qu'est-ce qu'a fait James Lind? Eh ben, il a inventé les essais comparatifs en groupe parallèle. C'est-à-dire, il a pris 12 patients, 12 marins, qui souffraient d'un scorbut à un stade à peu près comparable, et deux par deux, il a fait 6 groupes, hein, 6 fois 2, 12. Et il a dit, ben voilà, il y en a un qui va prendre ça, alors c'était un qui va prendre du cidre, enfin un groupe, hein, deux qui prennent du cidre, deux un élixir de vitriol, du vinaigre, de l'eau de mer, hein, et des citrons et des oranges. Et les deux qui ont pris des citrons et des oranges, ben, ils sont allés tout de suite beaucoup mieux. Et il est mentionné que ceux qui ont pris du cidre, ils ont été mieux, mais plus lentement. Hein, et les autres, par contre, sont morts. Hein, les autres sont morts, donc c'était vraiment un essai. Et ça, ça a été effectivement la preuve, hein, que non seulement bon, le cidre et surtout les oranges et le citron pouvaient prévenir le scorbut, mais aussi qu'on pouvait comme ça sortir des informations de la comparaison des faits de différents groupes. Alors, c'est là qu'il faut vraiment que je pose deux définitions qui sont importantes, qui sont la différence qu'on a entre un effet placebo et le placebo. L'effet placebo, c'est quelque chose qu'on mesure, en fait, hein, qui est très utile dans les essais cliniques. Hein. Donc, un essai clinique qui veut comparer une intervention, hein, donner un médicament ou faire autre chose, hein, quoi que ce soit, eh ben, on ne compare pas avec rien, on compare avec une situation qui est quasiment la même, enfin, on espère la même, sauf le principe qu'on veut mesurer, le principe actif. Donc on fait deux groupes qu'on randomise. Randomise, ça veut dire c'est aléatoire. Hein. On ne dit pas « Oh, toi, t'es grave, tu vas prendre plutôt le médicament. Toi, t'es pas grave, tu vas prendre le placebo. » Parce que sinon, on va introduire un biais et on ne pourra pas tirer de conclusion. Donc les deux groupes, en termes de comparaison, de sexe, d'âge, de sévérité de la maladie, ils sont vraiment les mêmes. Et il y en a un qui va recevoir l'intervention et l'autre, une autre intervention qui peut être, par exemple, le placebo. Et la différence qu'on a entre les deux, c'est l'effet qui est lié à l'intervention. C'est-à-dire que tous les médicaments qui reçoivent théoriquement une autorisation de mise sur le marché sont des médicaments qui démontrent qu'ils sont plus efficaces que le placebo. Mais dans ce groupe-là, ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien. On a d'une part des gens qui vont aller beaucoup mieux, et dans ce cas, on va dire que c'est l'effet placebo. Et puis on a aussi beaucoup d'effets secondaires. Beaucoup d'effets secondaires, des vertiges, fatigue, somnolence, parfois des effets secondaires assez sévères, qui sont produits en fait par rien. Donc l'effet placebo, ça englobe l'effet positif et ses effets indésirables qu'on va plutôt qualifier d'effet nocebo. C'est à nouveau pour bien vous montrer que placebo-nocebo, c'est un peu la même chose dans les deux sens. Hein. Donc ça, c'est donc l'effet mesuré lorsque le sujet est exposé à un traitement dénué d'effets biologiques propres. Donc ça, c'est l'effet placebo. Et si je distingue ça du placebo, qui est le traitement, dénué d'effet biologique propre, on dit un traitement pharmacologiquement inerte, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'effet pharmacologique. Alors souvent, c'est des petites gélules de sucre ou de farine. Enfin voilà, il n'y a pas de principe actif dedans. Ça, c'est le placebo. Alors bien sûr, ça, le fait de prendre un placebo, ça contribue à l'effet placebo. Mais attention, ça n'est pas tout. Et là, il faut quand même que je rappelle pourquoi est-ce qu'on peut aller mieux sous placebo. On peut aller mieux sous placebo parce que les choses vont mieux de manière naturelle. Je rappelle que 98% de nos maladies, de nos symptômes, vont guérir tout seuls. C'est énorme, c'est énorme. La plupart des symptômes qu'on a sont liés à des choses qui vont aller mieux. Voilà. Parce que la vie est bien faite. Et bien sûr, il y a des maladies qui ne vont pas aller mieux toutes seules. Mais la plupart du temps, et les médecins généralistes savent très bien que leurs prescriptions sont souvent des prescriptions de confort. C'est-à-dire que c'est désagréable d'avoir des symptômes. On sait que ça va aller mieux, mais on aimerait aller un peu plus vite vers l'amélioration. Donc on accompagne ces signes. Mais la plupart des maladies vont mieux toutes seules. Donc l'évolution naturelle des choses fait que on prend rien, ça va mieux. C'est pas parce que j'ai rien pris, c'est parce que ça va mieux. Il y a un autre phénomène, alors qui est utile à connaître, qui est peut-être un peu plus compliqué, qui s'appelle la régression à la moyenne, mais qui s'explique très très bien, qui veut dire que les symptômes, les signes de santé, qu'on ait une maladie chronique ou pas, ils fluctuent, c'est normal dans le temps. Il y a des jours où on se sent bien, des jours où on se sent pas bien. Si je prends la fatigue, il y a des jours où je suis fatigué, des jours où je suis moins fatigué, ça fluctue. C'est normal. Ça fluctue de manière aléatoire, c'est un peu régulier ce que j'ai fait, c'est pas très beau, mais bon, vous imaginez, ça change. Là-dedans, il y a quelque chose qui est perçu par le sujet comme un état moyen habituel. Ouais, je suis un peu fatigué, mais ça m'arrive. Ouais, je me sens un peu en forme, mais ça va. Ou tiens, ça tire un petit peu sur le muscle, là, mais bon, c'est bon. Voilà. Et puis, il y a des choses qui sortent un peu de cet état moyen habituel. Ces choses, ça va constituer des signaux d'alerte pour la personne. Elle va se dire, oh, ça, c'est pas habituel. Donc, c'est pas normal. Et ça, si c'est pas normal, eh ben, ça va déclencher une démarche de soins. C'est-à-dire que on va aller voir le docteur quand on est là, pas quand on est là. Or, comme les choses fluctuent naturellement, on va voir le docteur, et puis hop, on revient sur la moyenne. On dit, ça va déjà mieux. Alors, rien que de voir le docteur, ça a été super. Voilà. Ça, c'est la régression à la moyenne. C'est le fait que la plupart des gens, et alors si on prend tous les gens qui sont inclus dans un essai clinique, au moment où on leur dit, est-ce que vous voulez participer à un essai clinique, là, il y a un nouveau médicament qui sort. Le sujet, s'il est là de sa maladie, il dit « Oh, pff, en ce moment, oh, non, pas tellement. » Là, il est là. Et voilà, non, en ce moment, ça va pas bien. Là, je veux bien participer à un essai clinique. Et bien, tous les gens qui vont participer volontairement à un essai clinique, ce sont des gens qui sortent comme ça des valeurs habituelles normales. Et donc, lorsqu'ils vont rentrer, et bien, il y a de grandes chances qu'ils retournent un petit peu à l'état moyen et que ça se corrige tout seul. Vous voyez que c'est quand même un phénomène qui est important, cette régression à la moyenne. Autre phénomène qui explique très bien l'effet placebo, c'est l'effet simplement de prise en charge générale. C'est-à-dire, c'est des gens qui ont une maladie, bon, on leur dit, voulez-vous participer à une étude? Ok, je veux bien. Et puis, on dit, ok, bon, donc, on va faire une évaluation complète de l'état, on va remplir ces questionnaires, et puis, je vous revois un mois, trois mois, puis six mois. C'est pas du tout ce qu'on fait d'habitude. Donc voilà qu'on s'intéresse à moi, qu'on me photographie dans tous les sens, on me fait un scanner, une IRM, on me fait remplir des questionnaires de qualité de vie, de santé, de machin, et puis on la remplit après. Tout ça, ça fait du bien. Et cette prise en charge va contribuer aussi au fait que je me sente mieux. Et puis, on participe à une étude, à un essai, on dit, bon bah écoutez, oui, alors attention, hein, pendant l'essai clinique, là, pas d'alcool. Hein. Et puis, bon, c'est bien, vous faites bien attention, vous dormez bien, vous faites bien. Donc parfois, il y a des modifications très importantes, d'autres paramètres qui ont une influence sur la santé, qui sont contemporaines de ça, et qui vont contribuer aussi à l'effet placebo. Donc vous voyez, tout ce qui peut arriver à jouer sur le fait qu'on va aller mieux sous un médicament qui est inerte. Et puis donc, bien sûr, il y a aussi le fait d'avaler ce petit truc, qui est une substance inerte. Alors ça, ça fait partie des autres contributeurs, on va dire, hein. Et c'est particulièrement intéressant, parce que comment quelque chose qui n'est rien peut avoir un effet mesurable sur le corps, qui va intéresser des facteurs inflammatoires, des facteurs immunitaires, la douleur, des facteurs moteurs, des performances cognitives, tout a été mesuré, tout est sensible au placebo. Dans des limites, bien sûr. Hein, des maladies très graves ne peuvent pas avoir une évolution favorable sous placebo. Des maladies neurodégénératives, comme celles que je vois malheureusement à l'hôpital, sont des maladies qui sont assez résistantes. Mais même des maladies neurodégénératives, il y a une sensibilité à l'effet placebo. Alors, un peu difficile, mais je vais vous expliquer. Un symptôme qui a été extrêmement étudié, même à l'origine, pour le placebo, c'est la douleur. À l'origine, parce que l'un des premiers médecins qui s'est intéressé à la douleur de manière scientifique, à la douleur et au placebo de manière scientifique, c'est un médecin qui s'appelait Beecher, qui était médecin anesthésiste embarqué sur les sites de guerre, donc dans les territoires en guerre. Alors je ne sais plus quelle guerre c'était, on est à la première partie du 20e siècle, hein, 1930-40. Il avait de la morphine. Et puis à un moment donné, ben, il n'avait plus de stock de morphine, et les blessés arrivaient encore, ils souffraient. Donc il dit, bon, je vais voir si je me suis en mettant un petit peu de sérum physiologique, hein, c'est le milieu intérieur, hein, c'est ce qu'on a, hein, c'est de l'eau avec un peu de sel, est-ce que ça a un effet semblable? Et il se rendait compte qu'en injectant ça, il avait le même effet antidouleur. Et donc, très vite, la douleur est devenue un domaine dans lequel on s'est dit, oh là, là, la puissance de l'effet placebo, il est majeur. Alors, ça a été étudié de plein de façons, et en 78, je ne l'ai pas mis là, mais c'est très intéressant à noter, parce qu'on est un peu dans l'exploration scientifique du phénomène placebo, on s'est rendu compte que l'effet antidouleur du placebo, donc on injecte un produit en disant, voilà, c'est quelque chose qui va soulager votre douleur, c'est de l'eau, ah ouais, j'ai plus mal. Maintenant, je vous réinjecte un produit, qui est un produit cette fois qui est actif, et qui bloque les récepteurs opioïdes, qui bloquent les récepteurs aux endorphines. Hein, c'est-à-dire l'effet des endorphines, c'est en gros l'effet qui supporte notre système interne de contrôle de la douleur. Hein, on a un peu, si vous voulez, des équivalents de morphine qui vont aller calmer la douleur lorsqu'on a une douleur. Et bien, si on injecte ce produit qui s'appelle la naloxone et qui bloque l'effet des endorphines, qui bloque les récepteurs opioïdes, on réverse l'effet du placebo. Le placebo n'est plus actif si on bloque les récepteurs de l'endorphine. Ce qui veut dire, c'est la première démonstration, que l'effet placebo, c'est pas juste un effet psychologique, on va dire comme ça, hein, c'est pas juste quelqu'un qui, pour faire plaisir au docteur, dit « oui, vous savez, j'ai moins mal parce que vous êtes gentil », c'est quelqu'un qui réellement a moins mal parce qu'en fait, il a activé des systèmes endorphiniques, des systèmes endogènes propres, qui vont bloquer la douleur. Donc première démonstration, alors sur la douleur, plein d'études sur ces effets-là, hein, qui sont très importants. Et celle-là, je l'ai mentionnée parce que elle montre un effet qu'ils appellent le gloomy effect. Gloomy, c'est cafardeux. Hein. C'est-à-dire que on peut manipuler l'effet du placebo. Hein, donc l'effet du placebo, c'est le fait que ils appliquaient une plaque chauffante et ils montent la température jusqu'à ce que ça fasse mal. Donc protocole, voilà, un peu incisif. Hein. Et les gens, ensuite, vont recevoir un produit, soit un produit antalgique, hein, normal, soit un placebo. Mais le placebo, on va leur dire, ben, dans un cas, on va dire, ça c'est quelque chose qui va vous soulager, ou attention, là, cette fois, c'est quelque chose qui, au contraire, va être assez désagréable, risque de renforcer la douleur. Et bien, dans les deux cas, évidemment, ça marche, c'est-à-dire que vous avez ici la douleur au départ, hein, ça c'est une échelle de une échelle de douleur. Donc les gens ont mal, hein, malheureusement. Quand ils ont mal, ils activent ici un réseau qu'on connaît très bien en imagerie cérébrale. Donc ça, c'est de l'imagerie fonctionnelle, hein, qui permet de voir un petit peu quelles sont les régions du cerveau qui s'activent lorsqu'on a telle ou telle expérience. En l'occurrence, on a ce qu'on appelle la matrice de la douleur. Il y a un ensemble d'aires qui s'activent lorsqu'on a mal. Ceci dit, dans les aires, il y a des régions qui sont importantes, qui sont ces retro-régions-là, qui sont les insulas. Et ici, la région singulaire antérieure, qui joue un rôle majeur. Il faut savoir que jusqu'à il y a 30-40 ans, les gens qui avaient des douleurs rebelles, on leur détruisait cette région, les chirurgiens allaient détruire cette région-là. Donc ils descendaient un petit bistouri, puis abîmaient en fait le gyrus singulaire antérieur. Et lorsqu'on leur demandait après s'ils avaient toujours mal, ils disaient « oui, j'ai toujours mal, mais je m'en fous ». Dans la douleur, il y a cette composante qui est très importante, qui est la composante du retentissement affectif. Non seulement j'ai mal, je sens la douleur physique, mais en plus, ça me fait souffrir. Hein ? C'est la douleur et la souffrance. Bref, ce territoire-là, lorsque l'on regarde ce qui se passe et qu'on a un effet antalgique, eh bien, on a une réduction très importante, hein, et puis une activation d'autres régions, notamment ces régions-là dont je vais reparler, qui sont les régions du striatum ventral ou nucleus accumbens, qui sont des régions importantes dans le système de récompense. Pour tout à l'heure, je vous dis ça. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que vous voyez que si il n'y a pas d'attente particulière, ben, il y a une réduction, hein, on a injecté quelque chose et le sujet a un peu moins mal. Mais si on lui dit, vous allez voir, ça va être super, c'est un médicament extraordinaire, ben, la réduction est beaucoup plus importante. Et au contraire, elle n'est pas du tout présente si on dit que ça... Donc on peut moduler cet effet placebo avec tout l'accompagnement. Et ça, c'est très réminiscent de quelque chose qu'on connaît bien en clinique, hein, qui est que l'attitude du sujet par rapport à ce qu'il attend est fondamentale sur le résultat final. Et donc, le gloomy forecast proof true, hein, gloomy cafardeux, donc les prévisions cafardeuses, ça marche toujours. Et l'exemple du sujet qui arrive, qui dit qu'il a mal au dos, et que jamais personne ne fera rien pour lui, parce que vraiment il a trop mal au dos, et ben effectivement il a raison, ça marche pas, on le soulage pas, parce que il fait une prophétie autoréalisatrice, c'est-à-dire qu'il se met dans un état où nécessairement tout ce qui sera fait sera mis en échec. Donc, vous commencez à comprendre un petit peu comment fonctionne l'effet placebo, hein, et comment il est possible de le moduler. Et en fait, ça aussi, il y a eu énormément d'études là-dessus. On peut extrêmement moduler l'impact du placebo. Par exemple, en fonction de l'effort pour recevoir le traitement, le plus l'effort demandé au sujet est important, le plus l'effet placebo sera majeur, hein. Si je vous dis, ben oui, pour avoir ce médicament, il faut aller voir un médecin qui est à l'autre bout du monde, très 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 cher, il faudra économiser pendant 5 ans, etc. Eh ben, l'effet placebo sera beaucoup plus important. Le mode de dispensation du traitement, ça a été bien montré, ça. Hein, une intraveineuse marche mieux qu'un médicament pris par la bouche. Et ainsi de suite. En fait, en fonction de ce qui va être fait, on va avoir un effet plus ou moins important. Intraveineuse d'eau, hein, de l'eau, ou un cachet de sucre, et ben l'eau, parce que c'est dans les veines, c'est plus fort. Si la personne est en blouse, si je viens en civil, je dis prenez ça, si je viens avec ma blouse, et ben la blouse, paf, l'effet est plus important. Vous voyez à quoi ça tient, hein ? Si la personne semble avoir de l'expérience, donc voilà la petite barbe blanche, c'est bien, ça m'aide, hein, et je dis, même pas ça pour rire, hein, j'utilise moi-même l'effet placebo, c'est-à-dire que j'essaye de mobiliser des attentes et de la confiance. Vous voyez, plus la confiance est là, plus la personne sent que je m'intéresse à son problème et que je vais essayer de l'aider. Si en plus une barbe blanche et une blouse, bah ça augmente l'effet. Comment est-ce que le traitement est présenté, hein, ça je l'ai dit. Et même le prix du traitement joue un rôle. Le prix du traitement, ça a été démontré. Oui, je vais vous montrer tout à l'heure. Donc, vous avez compris que dans l'effet placebo, donc, qui comprend aussi tout ce que j'ai dit, hein, s'ajoute un effet propre s'il existe, hein, donc il y a des traitements inactifs, c'est le placebo, mais dans les traitements que certains d'entre vous prennent, il y a un effet propre, et puis il y a aussi ça. Il y a aussi ça, nécessairement. Ça, c'est inhérent, en fait, hein, à la prise de médicaments. Et dans certains cas, ben, dans certains cas, on a un effet placebo qui est majeur, et un effet propre qui peut être très réduit, voire inexistant. Et quand est-ce que cet effet placebo est majeur ? C'est lorsqu'il y a tout ça. et notamment des choses qui sont de l'ordre de l'attente ou de la croyance dans ce que va m'apporter le médicament. Donc je vous parlais du prix, hein, ça a été démontré dans une maladie qui est la maladie de Parkinson, où pourtant c'est une maladie neuroévolutive, une maladie où il y a une perte des neurones qui produisent la dopamine, cette perte de dopamine fait que les mouvements sont très lents, très difficiles, et on mesure un petit peu l'effet des médicaments en fonction de ce qu'ils permettent de faire au point de vue moteur, notamment au point de vue mouvement. Et donc là, ils ont testé donc deux groupes, hein, avec un groupe qui prenait un placebo qui était présenté comme très peu cher, vraiment presque gratuit, et un groupe avec un placebo très très cher. Et en fait, les résultats, ils sont ici représentés, hein. Donc ça, c'est un score moteur, c'est un score qui est calculé en fonction de la vitesse de mouvement, on fait faire des mouvements répétitifs et on score un mouvement qui est rapide, au contraire qui est lent et petit. Et en fait, voilà, c'est le point de départ. Lorsqu'on donne le placebo très cher, eh bien, l'effet est plus important que lorsqu'on donne le placebo pas cher. Et lorsqu'on donne le médicament, qui est la levodopa, c'est le précurseur de dopamine, donc c'est vraiment le médicament qui soigne Parkinson, on a une amélioration. Alors ça, c'est une amélioration. Hein. La difficulté, c'est d'avoir ici un score où plus c'est haut, moins c'est bon. Et là, ici, c'est, l'amélioration, c'est il vaut mieux avoir une grande barre. Donc l'amélioration, elle est importante. Mais l'amélioration sous le placebo cher, elle est un peu moins importante, mais vous voyez qu'elle est, en fait, c'est pas significatif, la différence n'est pas significative, alors que cette différence, elle est très significative avec un placebo pas cher. Alors, tout ça nous conduit à parler du cerveau aussi, et j'en ai presque terminé, à propos du fait que notre cerveau est un organe dont le principal travail est d'anticiper ce qui va se passer. Donc ça a été toujours très utile et on continue à l'utiliser de nos jours. On anticipe les choses, notamment parce qu'on fait face à des phénomènes qui sont d'une grande complexité, notamment les phénomènes sociaux, hein, les interrelations qu'on a entre nous, et puis les projets. Vous savez que l'être humain peut se projeter à 5 ans, 10 ans, 30 ans, on cotise pour la retraite, si un jour il y a une retraite. Donc bref, on se projette très très loin, hein, notre cerveau est fait pour ça, et il passe son temps à anticiper ce qui va se passer. Il se projette sur demain, tout à l'heure. Donc, ok, faut que je termine à 13h, 13h30, on discute, tac, je prends la voiture. Toujours, on projette. Bien sûr, si on projette, et en fait, on projette avec, alors, pour le faire un petit peu large, sur, dans les territoires préfrontaux, le lobe préfrontal qui est derrière le front, en connexion avec autre chose qui sont. D'une part, l'amygdale. Donc, l'amygdale n'est pas sur ce schéma. L'amygdale, c'est en gros les valences émotionnelles, positives ou négatives. Hein, les amygdales, pas les amygdales du fond de la gorge, les amygdales du cerveau, ce sont celles qui vont donner la coloration émotionnelle, notamment aux stimuli auxquels on est confronté. Donc, globalement, pour faire très simple, hein, c'est soit c'est plutôt sympa et j'ai plutôt envie d'aller vers la stimulation. Ah, ça fait longtemps que je t'ai pas vu, je suis content de te voir. Hein. Soit c'est plutôt négatif, hein, et j'ai plutôt tendance à, c'est un peu dégoûtant, c'est un peu, ou alors j'ai peur là, je me recule. Hein. C'est vraiment ce mouvement d'aller ou de se reculer. Évidemment, lorsqu'on anticipe, eh ben on va anticiper avec des valences plutôt positives. Wow, super, ça va être génial demain. Ou alors tout à l'heure, la discussion avec le public, ça va être super, ils vont avoir des questions géniales, hein, ou plutôt négatives. Les questions, quand elles vont venir, je ne sais pas s'il y en aura, peut-être que ça va être un long moment de silence, on va être mal. Donc ça, c'est un petit peu en fonction de comment sont les amygdales. Hein. Et puis, dernier système dont j'ai parlé, qui est très important, qui est le système qu'on appelle globalement de récompense, et qui repose sur la dopamine. Et il faudra que je vous donne des choses sur la dopamine. Et en fait, il y a eu un travail qui a été remarquable, hein, qui est publié dans Science, qui est une des grandes revues scientifiques mondiales, au début des années 2000, qui a encore concerné la maladie de Parkinson. Alors, c'est un petit peu complexe, mais en gros, on peut faire une imagerie pour regarder si la dopamine est libérée dans le cerveau. Pour ça, on injecte un marqueur qui va se fixer sur les récepteurs de la dopamine. Et on regarde simplement si la dopamine libérée par le sujet, par son cerveau, va déplacer ses récepteurs. C'est-à-dire qu'elle va arriver, et puis comme elle est en compétition, elle va virer le récepteur. Donc plus il y a de la dopamine qui arrive, endogène, dopamine du sujet, plus ça va virer les récepteurs. Et ce qu'on s'est rendu compte, donc on savait que le placebo permettait, je vous l'ai montré, permettait à des sujets qui sont en manque de dopamine de quand même réussir à bouger le doigt. Ce qu'on a trouvé, avoir des mouvements normaux, ce qu'on a trouvé, c'est que les placebos déplaçaient le marqueur qu'on avait mis sur ces récepteurs. Autrement dit, l'effet du placebo passait même par le mécanisme de la maladie. C'est-à-dire que l'effet placebo, c'est pas quelque chose qui est comme ça global, ça peut même être spécifique de l'affection. Donc c'est ça que montrent ces courbes ici. Alors, du coup, on se dit, alors ça c'est la maladie de Parkinson, c'est un peu particulier, mais en fait le placebo, si on parle comme ça d'attente, hein, d'anticipation, je vous l'ai dit, et puis de système de récompense, eh ben, on tombe donc sur les voies dopaminergiques, et on retombe un petit peu sur nos acteurs dont j'ai déjà parlé, hein, qui sont l'amygdale, que vous avez ici, hein, c'est ce petit noyau ici qui est très profond, qui est la région temporale interne, à l'intérieur de du lobe temporal. Le lobe préfrontal, hein, qui est un petit peu le lobe préfrontal, c'est vraiment le contrôleur, hein, contrôleur cognitif. Donc il fait des prédictions, il estime, il voit un petit peu ce qui peut se passer. Bien sûr, tout ça coloré par l'amygdale, hein, je vous l'ai dit, par les valences émotionnelles. Et puis le système dopaminergique, donc les dopamines, avec les noyaux qui sont pleins de dopamine, qui sont ici, et qui projettent notamment vers une structure dont j'ai déjà parlé, qui est le ventral striatum, le striatum ventral ou nucleus accumbens. Donc région qui est très impliquée dans tous les systèmes de récompense. Comment ça marche? Eh bien, donc, ce système de récompense, c'est un système qui, en gros, va, un, nous dire, ça va être sympa, ça c'est la dopamine de base, ça va être sympa, ça va être cool, et quelque chose de bien peut se passer. Et si, donc ça c'est en gros, c'est la libération de dopamine un petit peu continue. Donc qui va varier, hein, là il ne se passe pas grand chose, c'est un peu monotone, je m'ennuie. Là, la dopamine elle est très basse. Mais si par contre, je vais vous dire un truc incroyable, vous allez vous en souvenir toute votre vie. Là, vos taux de dopamine, ils montent, ils montent, ils montent. Donc vous montez. Et à un moment donné, je vais vous dire la chose en question. Et là, votre cerveau va calculer la différence, c'est vraiment comme ça que ça fonctionne, hein, entre ce que vous attendez et ce que vous avez reçu. Ce différentiel, ce gap. Et c'est ça qui va être codé par le boost de dopamine. Et si ce boost est important, et bien vous allez revenir. Et c'est ça qui fait un peu l'addiction. Et vous savez que la dopamine a un rôle important dans les phénomènes d'addiction. Hein. C'est-à-dire que c'est, waouh, c'est encore plus chouette que ce que j'avais pensé. C'est vraiment ça la dopamine. Souvent on voit la dopamine, l'hormone du plaisir, etc. C'est pas ça. Hein. Vous voyez que c'est plus subtil que ça. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous voyez, on manipule l'attente, et notamment l'attente de quoi? L'attente, ben, en l'occurrence, puisqu'on parle de santé, d'une amélioration. Hein, la récompense, c'est « Ah ben j'ai moins mal. Ah ben ça va mieux. Ah je bouge mieux. Hein, » Et c'est ça qu'on attend. Et c'est ce différentiel qui est codé par la dopamine. Alors évidemment, là c'est juste, bon c'est illisible, hein, on ne voit pas trop, mais c'est ces circuits de l'anticipation plutôt négative, hein, avec notamment le rôle de l'amygdale dans l'anticipation anxieuse. Hein, si ce que j'anticipe, c'est plutôt des effets secondaires, de mon placebo, on me dit « Oh là là, on m'a dit que c'était un truc fort, avec des gros risques, etc. » Eh bien, il y a de grandes chances que, effectivement, je me mette dans cette situation. Avec une structure dont j'ai déjà parlé, qui est l'insula, qui est en gros le lecteur interne que nous avons de nos états physiques, hein, de comment je me sens. Comment je me sens? Comment je me sens là maintenant? Ah ben, je suis détendu, les gens ont l'air cool, etc. C'est mon insula qui m'informe sur mon état physique. Et ça, forcément, comme c'est nourri par les circuits, on a dit, de l'émotion, etc., ben, si je suis un peu tendu et que mon cerveau fouille les sensations qui peuvent effectivement confirmer ma prédiction que ça va mal se passer, et ben je vais trouver des trucs. Je vais trouver des trucs. Oh, puis j'ai un petit poids là sur la poitrine. Et puis quand je fais ça là, oh, je sens que ça presse un peu. Je suis un peu chaud aussi. Je suis pas si bien que ça. Voilà, ça c'est celui-là qui est en train de se nourrir. Et dernière chose dont je voulais vous parler, et vraiment je vais arriver à la fin, parce que c'est un truc aussi dont on a parlé qui est très très intéressant, c'est l'ocytocine. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler d'ocytocine. Hein, c'est en gros le transmetteur cérébral de l'attachement, hein, mais qui notamment joue un grand rôle dans les relations sociales et notamment dans la confiance qui peut s'établir en relations sociales. Alors ça, c'est une équipe qui travaille sur l'autisme. L'autisme, l'une des théories, c'est que ce sont des enfants ou des adultes, hein, qui ont des difficultés dans les relations sociales et notamment dans les relations d'attachement. Et ils ont fait une étude où ils comparaient l'effet de l'ocytocine avec un placebo pour voir si le fait de prendre l'ocytocine permettait aux enfants de restaurer des contacts sociaux profitables. En fait, ils n'ont pas eu de résultat, c'est-à-dire que l'ocytocine n'était pas supérieure au placebo. Mais, dans leur protocole, ils avaient des mesures des taux d'ocytocine. Ils arrivaient à mesurer le niveau d'ocytocine chez les sujets traités. Ils se sont rendus compte qu'en fait, les gens, les enfants qui recevaient l'ocytocine et ceux qui recevaient du placebo avaient le même niveau d'ocytocine. Autrement dit, le placebo pouvait avoir agi en restaurant l'ocytocine. Et du coup, ils se sont dit, est-ce que cette ocytocine, hein, qui donc est sécrétée par une structure particulière au sein de l'hypothalamus, hein, et qui ont pensé qu'elle a un rôle notamment dans la modulation des neurones dopaminergiques, hein, et on retrouve le noyau accumbens, éventuellement ici les neurones endorphiniques de la substance grise périacducale, une substance qui contrôle la douleur. Est-ce que l'ocytocine n'est pas un petit peu un grand contrôleur, dans le sens où cette hormone qui est sensible à la relation sociale, à la confiance qui s'établit, au fait qu'on sent qu'il y a quelque chose qui se passe entre le docteur et l'enfant, est-ce que ce n'est pas aussi quelque chose qui interviendrait dans l'effet placebo? Ça, c'est un article récent, hein, qui est un article de revue un peu générale, de réflexion, hein, de spéculation. Ce n'est pas un article de substance scientifique. C'est plus voilà, des idées qui sont des hypothèses. Mais ça me paraît intéressant. Voilà, donc je finis ma petite présentation, et puis comme ça, on peut en discuter. Donc le placebo n'est pas une illusion. Hein, ce n'est pas une illusion. Ça n'est pas non plus une insulte. Lorsqu'on dit les médecines alternatives sont de l'ordre du placebo, c'est pas grave. Moi, je dis toujours que c'est pas une insulte. Ce qu'il faut éviter, c'est l'enfumage, parce que ça, c'est pas honnête. Hein. C'est raconter, voilà, je vous donne ça et ça va faire circuler les énergies, etc. Là, pourquoi? Mais par contre, le fait qu'on puisse utiliser des ressources que nous avons pour aller mieux, ça, c'est une bonne chose. Donc, c'est pas une illusion, ça contribue vraiment à un effet biologique. Hein. Ça repose sur la suggestion. Hein. La suggestion, c'est créer une attente spécifique. Hein. Si je dis, je vois un collègue ce matin, je dis, oh là, mais t'as l'air tout pâle là, qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, oh, oui, je suis pâle, c'est vrai, je me sens pas très bien. Vous voyez, je suggère quelque chose. Et s'il m'accorde une grande confiance et il dit, oh là, docteur Vercueil, il a un jugement sûr, ça va être encore plus important. Hein. Voilà. Donc la suggestion, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup au quotidien. On n'arrête pas de nous suggérer des choses, et ça a un impact sur nous. Et donc le placebo, c'est en fait la maximisation, l'optimisation de cette suggestion. C'est vraiment porter à l'extrême la suggestion. Et vous comprenez très bien aussi pourquoi l'hypnose, c'est du placebo. C'est rien d'autre que du placebo. C'est de la suggestion portée au maximum. Le placebo est modulable, hein, on va parler plus de nocebo, mais en fait c'est la même chose. On va comme ça du très positif jusqu'au très négatif. Il est surtout important pour les symptômes subjectifs, donc des choses que ressent le sujet, donc une douleur, une fatigue, un état un peu voilà, de pas bien, quoi. Mais il est aussi significatif pour les signes objectifs et même les valeurs biologiques, c'est-à-dire même des choses qu'on peut mesurer dans le sang, on peut voir des effets du placebo sur des constantes biologiques. Il est plafonné, il ne fait pas tout, évidemment, à la fois en intensité et en durée. Voilà, maintenant on peut discuter un petit peu. Ah oui, juste un truc, il y a quelque temps un psychiatre lyonnais qui s'appelait Jean-Jacques Aulas, qui avait dit, bon, le placebo, quand même, c'est un effet qui est, effectivement, je vous l'ai montré, qui est fascinant, qui est extrêmement puissant, qui a un pouvoir du cerveau sur le corps, en quelque sorte. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas l'utiliser sans le masquer, sans le cacher, en disant aux gens, voilà, je vous donne un placebo, parce qu'il est démontré que le placebo vous aide. Voilà. Et donc, il a mis sur le marché l'Obépac, c'est un anagramme hein, de placebo. Hein. L'Obépac fort, parce que fort aussi, ça suggère que c'est fort. Hein, voilà. Avec un truc... Le bleu, apaisant, et le rouge, excitant. Donc, je suis fatigué, ben, l'Obépac fort rouge. Oh, ça y est, je suis un... Et par contre, là, je suis trop énervé, j'arrive pas à dormir, etc. Ben, prends le bleu, mais pas trop, hein, attention, parce que si t'en prends trop, t'es en... Hein, voilà, et ben, voilà, ça marche. Et il a montré que ça marchait bien, hein, ça marchait bien. Alors, en fait, le problème, c'est que, ben, il a pas marché son truc parce qu'il n'en a pas vendu, hein. Les gens n'achètent pas de placebo. Ils vont pas dire bonjour, je voudrais un placebo. Ça marche pas comme ça. Voilà. Voilà. Ben, la parole à la salle. Merci.
J'ai le micro, c'est un peu le bâton de parole, donc je vais le faire circuler dans la salle. Pareil, on s'est mis en condition, on s'est dit que ça allait très bien se passer. Donc, qui veut commencer? Je sais que la première question est souvent la plus difficile. Bon. J'ai vu, puis j'y reviens, ne vous inquiétez pas.
Merci. Vous l'avez effleuré dans votre présentation. Est-ce qu'il y a une typologie des gens? Parce que dans la... ouais. Voilà, allez-y.
Tout à fait, vous avez tout à fait raison, je n'ai pas eu le temps de tout évoquer. Hein. Il y a des placebo répondeurs et effectivement aussi des placebo résistants. Et dans les traits qui sont le plus associés aux placebo répondeurs, vous allez vous en douter, hein, il y a l'optimisme. Donc les gens ont fait vraiment des études en utilisant des grands questionnaires de personnalité. Et par exemple, donc les traits d'optimisme sont associés à une bonne réponse au placebo. Hein. Et inversement, les gens qui sont plutôt pessimistes vont avoir une moins bonne réponse. Donc ça, c'est vraiment les choses qui sont bien mises en évidence. Mais effectivement, le degré de réponse dépend aussi de traits de personnalité.
Bonjour. J'avoue que j'ai été un peu perturbée par la présentation parce que du coup, il y a quand même une notion de manipulation de notre cerveau, de l'être humain. Et du coup, est-ce qu'il n'y a pas un risque dans le cadre de l'utilisation du placebo d'avoir un biais d'analyse quand on voit quelqu'un et peut-être se dire c'est un pessimiste, c'est un optimiste et que finalement, il y a aussi des apparences et des fois, on peut avoir... 90% des personnes qui viennent me voir sont des anxieux, donc s'il a cet effet, c'est qu'il est anxieux. Et alors que ça peut être une situation autre qu'on ne voit pas, parce qu'on part du principe qu'il y a l'effet placebo. Je ne sais pas si ma question est claire.
Alors j'ai compris, en tout cas, j'ai très bien compris la question de la manipulation, qui se pose à deux niveaux.
Manipulation bienveillante.
Hein. Oui, mais... Mais c'est quand même quelque chose qui est important, qui est dans quelle mesure on peut se permettre alors de mentir, à la limite, hein, c'est-à-dire dire je donne quelque chose dont je sais très bien que ça n'a aucun effet, mais où j'espère qu'un effet placebo va fonctionner et que la personne va aller mieux. Hein. Donc c'est un mensonge altruiste en quelque sorte, puisqu'on le fait pour le bien de la personne, hein, mais c'est un mensonge quand même. Donc ça pose un gros problème de déontologie, hein, à partir du moment où on est dans le soin, on doit dire la vérité à quelqu'un, on doit l'informer. Tout traitement doit être éclairé. Donc on ne peut pas mentir. Donc, alors, il y a la question des études cliniques où là, c'est un contrat. Hein, c'est-à-dire, voilà, vous entrez dans une étude, vous savez que vous pouvez être éventuellement dans le groupe placebo, la personne est informée, la seule chose. Mais en pratique courante, je pense qu'il ne faut pas donner un médicament dont on sait qu'il n'a pas d'effet en disant ça va vous aider. Parce que ça, c'est un mensonge. Ensuite. Alors, deuxième point, c'est la manipulation, parce que, comme je vous le disais, par exemple, moi, j'ai tout à fait conscience d'utiliser l'effet placebo dans ma pratique quotidienne. Pas dans le sens où je donne un médicament qui n'a pas d'effet, dans le sens où je sais très bien que les médicaments que je donne, qui sont des médicaments efficaces, hein, qui ont des effets, je vais moduler leur effet en fonction de ce que je dis à la personne. Et... même si je me garde bien de dire des mensonges, hein, mais je vais quand même insister sur le bienfait que ça peut leur apporter. Est-ce que c'est de la manipulation? Oui, c'est vrai, c'est de la manipulation. Parce que je fais quelque chose dans le but de changer un petit peu les représentations. Maintenant, comme je le disais un petit peu sur la suggestion, hein, on passe notre temps à suggérer des choses en espérant que ça va manipuler l'autre. C'est-à-dire que la relation qu'on a entre deux personnes... c'est une relation qui repose aussi un petit peu sur des suggestions et donc sur des intentions de manipulation. Donc je pense qu'il ne faut pas non plus être naïf dans le sens où on serait tous des chevaliers blancs qui jamais n'ont rien tenté d'induire chez l'autre. On passe notre temps à essayer d'induire des décisions chez l'autre qui vont dans notre sens. Voilà. Dernière chose, c'était pessimiste, les gens qui seraient anxieux, qui seraient... Alors, en fait... ceux dont j'ai parlé, hein, les placebo répondeurs, les placebo résistants, c'est pas des choses qui sont prises en compte dans les études en général. C'est-à-dire qu'on fait pas des questionnaires pour savoir si les gens vont être plutôt bons répondeurs. Généralement, on fait pas ce travail-là en sélectionnant des gens qui seraient des bons répondeurs. Donc, les populations sont sélectionnées sur des critères médicaux, hein, on fait des groupes à parier, mais pas en disant, tiens, on va prendre plutôt des bons répondeurs au placebo.
Merci.
Bonjour. Moi, je voulais poser une question par rapport à l'homéopathie, qui est considéré par les instances haut placées comme étant des placebos. Et enfin, bon, moi, je me soigne par homéopathie et je me dis, de toute façon, à la limite, même si je suce des bonbons sucrés, à partir du moment où je me sens mieux et où ça me guérit, où est l'importance?
Mais c'est un peu ce que je disais à un moment donné. Moi, encore une fois, le placebo nous est très utile, y compris sur des médicaments efficaces. L'homéopathie, avec un très grand nombre d'études, n'a jamais démontré de supériorité par rapport à un placebo. Donc on considère qu'effectivement, c'est un placebo, d'autant que dans une granule d'homéopathie, il n'y a rien, puisque c'est dilué à un tel niveau qu'on sait très bien qu'il n'y a rien. Donc on est tous d'accord que c'est du placebo. Et cependant, de faire ça, ça fait qu'on va mieux. Alors, vous avez vu, hein, y a plein de raisons pour lesquelles on va aller mieux, hein, que vous expliquez. Hein, et moi, je ne suis pas du tout choqué qu'on puisse avoir ce genre d'attitude. Hein, ce n'est pas du tout choquant. Là où je suis un petit peu plus réservé, c'est lorsque, par exemple, un praticien prescrit de l'homéopathie en élaborant une théorie qui va être nécessairement fumeuse. Hein, alors, en l'occurrence, c'est la théorie d'Hahnemann sur... les contraires, etc. C'est-à-dire que vous vous rappelez que l'homéopathie, c'est une médecine dogmatique, hein, c'est-à-dire qu'il y a un principe et qu'il applique généralement, c'est-à-dire qu'il n'est pas révisable. On ne peut pas réviser le dogme. Hein. Dans la science, on passe notre temps à réviser des théories. On fait des théories, elles ne sont pas bonnes. Hein. Là, c'est bon, c'est fixé, c'est comme ça. Et donc, cette théorie veut qu'on dilue le contraire. Hein. On prend du venin de serpent ou je ne sais pas quoi et on le dilue de manière à avoir un effet positif. Donc là, ça, c'est ce que j'appelle de l'enfumage. C'est-à-dire que ça repose sur rien, c'est du discours, mais qui est mensonger, en fait. Qui est mensonger. Donc, quelqu'un qui dirait « prenez l'homéopathie parce que ça vous fera du bien », ok. Elle peut dire ça. Hein. Je pense que vous avez bon profil pour l'homéopathie, vous. Tac. Ah, parfait, super. C'est bien. Mais pas quelqu'un qui dit « voilà, selon ma science très élaborée, je pense que ces granules vous permettront de... »
Bonjour. Vous avez parlé de l'efficacité de l'effet placebo sur les maladies neurodégénératives. Est-ce qu'il y a eu des études pour la maladie d'Alzheimer?
Alors, oui, il y a eu des études, et ça ne marche pas du tout. Et notamment, parce que malheureusement, la maladie d'Alzheimer va comporter des troubles dans les circuits que je vous ai montrés. Hein. Et notamment le cortex préfrontal, il est très vite très altéré. Hein. Le cortex préfrontal, c'est celui justement qui va nous permettre d'anticiper, de faire des prédictions, c'est celui qui a le contrôle cognitif, qui a le contrôle émotionnel. Et en fait, tout ce cortex, il souffre dans la maladie d'Alzheimer. Et s'il n'a plus cette possibilité de générer des attentes, de dire « ok, je prends quelque chose parce que... » Vous voyez, toute cette partie d'adhésion au traitement, ben, on ne peut plus avoir l'effet.
Bonjour. Alors moi, ma question, c'est du coup, quand on est très informé de l'impact qu'a l'effet placebo sur le cerveau, comme vous, est-ce qu'on peut toujours y être réceptif?
Oui, tout à fait. Et ça a été étudié, ça. Hein. Y a des études qui ont montré que de faire un placebo en informant les gens sur la totalité des connaissances que je vous ai données n'annule pas du tout son effet, au contraire. Hein. Les gens comprennent comment ça marche et ils ont un effet qui est tout à fait comparable, voire même meilleur. Hein. Et en général, il a même été montré que le fait d'informer les gens a un effet qui est très contributif à l'effet placebo. Ça a même été étudié en quelque sorte chez l'animal. Alors c'était des rats qui étaient soumis à des... Alors, je me rappelle le design. Ouais, c'est des rats qui sont porteurs d'une tumeur. Et on analyse un petit peu la grosseur de la tumeur. Et en fait, ces rats sont mis dans un protocole où ils ont des petits chocs électriques très désagréables. Et il y a deux groupes. Il y a un groupe où ils ont des petits chocs électriques comme ça, aléatoires, et très désagréables. Et on regarde un petit peu l'effet sur la tumeur. Et d'autres groupes où ils ont les mêmes chocs électriques, sauf qu'avant que les chocs arrivent, ils ont un petit signal lumineux qui les avertit. En quelque sorte, on les informe que quelque chose va se passer de pas agréable. Et bien, le fait d'être informé, de savoir qu'il va y avoir ces petits chocs électriques, fait que la lésion tumorale se développe moins vite. C'est-à-dire que les mécanismes immunitaires, inflammatoires, sont modifiés simplement par le fait d'être informé qu'un stress supplémentaire, qui sont ces petits chocs électriques, va survenir. Donc, c'est vraiment important. C'est lorsqu'on comprend les choses, va déjà mieux. Parce lorsqu'on ne comprend pas, ça nous échappe. Ça contribue en fait à l'état de stress, à l'anxiété, à l'anticipation négative, etc. Comprendre les choses, c'est un pas majeur. Hein.
Merci. J'ai droit à un deuxième passage. J'ai participé à une expérimentation sur le mal aigu des montagnes pour voir les effets d'un traitement non médicamenteux sur le mal aigu des montagnes. Et pour participer, pour être dans l'échantillon, il fallait être sensible au mal aigu des montagnes. Et le protocole, c'était de une semaine avant de nous monter à l'aiguille du Midi, on bénéficiait d'une manipulation crânienne par un ostéopathe. Donc voilà, donc c'était une personne en blouse blanche, il fallait se rendre à Chamonix une semaine avant. Oui. Et puis ensuite, une semaine après, donc, on montait à l'aiguille du Midi et on faisait une hyperventilation. On nous demandait de respirer avant de nous faire des exercices physiques importants, puisqu'il y a plusieurs niveaux à l'aiguille du Midi, donc à 3800 mètres. On nous demande de monter les escaliers, monter, descendre, etc. Et moi, rapidement, j'ai été mal, à tel point qu'il a fallu me redescendre. Puis en redescendant, le responsable m'a téléphoné, et vous savez dans quel état j'étais. Et moi, j'étais déçu parce que j'avais l'impression que je n'avais pas participé à l'expérimentation jusqu'au bout. Il m'a dit, au contraire, vous étiez placebo, vous. C'est-à-dire que les manipulations qu'on avait faites une semaine avant, c'était du pipeau. La personne faisait ça sérieusement, écrivait, etc. Et puis l'hyperventilation que je faisais là-bas, ce n'était pas la même que les autres. Donc, au contraire, vous avez bien servi. En gros, on avait prouvé que si on ne me faisait rien, le mal aigu des montagnes, je le conservais. Oui, le placebo n'avait pas marché, enfin, c'est ce que j'ai retenu.
Et vous soulevez un problème qui est comment contrôler les effets placebo des techniques manuelles. Et c'est vrai par exemple pour l'acupuncture. C'est-à-dire que c'est très difficile de trouver un placebo d'acupuncture. Alors on peut mettre des aiguilles n'importe où par exemple, hein, et pas sur les méridiens en question, etc. Mais est-ce que le sujet qui plante les aiguilles, s'il les met n'importe où, est-ce qu'il le fait vraiment de la même façon que lorsqu'il les met vraiment précisément sur le méridien? Vous voyez, il y a tellement de paramètres qui peuvent changer. Est-ce qu'il a la même conviction lorsqu'il parle au patient? Donc en fait, toutes les techniques manuelles sont très difficiles à contrôler avec un vrai placebo, parce que c'est pas simple.
Bonjour, je suis un peu enrhumée. Alors, moi, je vais poser une question qui va peut-être vous paraître un peu ridicule, qui est peut-être un petit peu un peu éloignée de l'effet placebo. Lorsque on cherche une place de parking, et on se dit, je sens que je vais en trouver une, on en trouve une. Est-ce que ça a rapport avec le... comment ? Le système de récompense de notre cerveau.
Alors en tout cas, c'est un rapport avec le cerveau anticipateur. Ensuite, le fait est que lorsqu'on cherche une place de parking, on finit toujours par en trouver une, sinon on serait tous dans la voiture encore en train de chercher. Hein. Donc ensuite, le problème, c'est est-ce qu'on arrive à prédire dans 5 secondes exactement non, en fait, on fait une prédiction, mais qui est quand même assez... qui a de grandes chances d'être positive.
Hein. Je profite, j'ai le micro. Dans l'introduction, j'ai un petit peu opposé les médecines parallèles des médecines conventionnelles. Est-ce que dans un cas comme dans l'autre, il y a une connaissance de cet effet placebo? C'est-à-dire que est-ce qu'un médecin généraliste est conscient aussi de tous ces effets placebo, ou il le fait un petit peu, je dirais, naturellement, parce qu'il sent que ça marche de façon un petit peu empirique?
Non, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Souvent, les médecines alternatives refusent le terme de placebo. C'est quelque chose dont elles se défendent, notamment parce qu'elles sont souvent adossées à des théories qui peuvent être, en soi, respectables, mais qui sont des théories soit remontant à une espèce de tradition. Hein, on parle des fois de médecine traditionnelle, lorsque la théorie qui est derrière, elle est très ancienne. Soit des choses qui sont beaucoup plus... fumeuses, et qui s'adossent à des présentations pseudo-scientifiques. Hein, lorsqu'on met un peu de quantique quelque part, c'est toujours suspect, hein, je trouve. Alors ensuite, je pense que beaucoup des gens qui utilisent qui les prescrivent, je parle des médecins, sont des gens qui sont convaincus, hein, et ça va être d'autant plus efficace qu'ils sont convaincus, parce que le problème, c'est que s'ils sont sceptiques par rapport à ce qu'ils font, ça va pas marcher. Hein, vous avez vu toutes les attentes qu'il faut générer. Donc, si vous êtes devant quelqu'un qui dit, bon, il y a un truc là, ça date de la médecine chinoise, vous prenez ça, hein, vous verrez toujours, ça ne marchera pas.
Oui, il y a des traitements homéopathiques qu'on donne aux nouveau-nés, par exemple, et ça marche. Donc,
comment ça marche ?
C'est l'ocytocine ? Hein ? C'est l'ocytocine qui joue là aussi ou
L'ocytocine ou tous les autres facteurs qui font que ça marche. Hein, et que lorsqu'on donne au petit à un nouveau-né, c'est pas pour un infarctus ou une fracture de la jambe.
Pour hein, les dents, des fois, ouais.
C'est pour, c'est pour des petites choses qui marcheraient, qui vont aller bien de toute façon. Alors oui, ça a été étudié, ça marche. Alors sur des bébés de 4 mois à 2 ans, il y a une étude qui a montré que c'était un remède contre la toux, enfin des enfants qui toussaient, pour des raisons allergiques, je crois que c'est des toux allergiques, hein, dans le détail je ne me souviens plus très bien, et ont montré que le placebo marchait, mais là aussi, il y a entre le médicament et le bébé, il y a les parents, hein, donc il y a aussi ce qu'induisent les parents lorsqu'ils donnent, voilà, tu prends ça, donc il y a Jean-Claude Amezen, que vous connaissez sans doute, hein, qui, lorsqu'il parle de l'effet placebo, parle de tout ce qui est care, le care. Donc, il y a le cure, hein, traiter, soigner, et puis il y a le care, qui est en fait tout le prendre soin, le prendre en compte, l'attention portée à la personne, etc., tout ce qui est en Europe. Et en fait, le placebo, c'est ça, quoi. Et lorsque on donne quelque chose à un enfant, il y a ce qu'on donne, mais il y a aussi... voilà, tout ce qu'on fait et comment ça va aller mieux avec tout ce qu'on fait autour, qui est très important.
On a le temps de prendre une ultime question.
Oui, merci. Vous avez évoqué rapidement la limite du placebo en intensité, mais en durée. Est-ce que vous pouvez en dire plus sur l'aspect durée ?
Oui, en durée, ben, notamment je pensais à tous les symptômes qui sont des symptômes relevant de maladies évolutives ou organiques, où l'effet il est présent, mais il est limité, mais surtout la maladie reprend ses droits et les choses réapparaissent. Donc généralement, un effet placebo sur des maladies sérieuses, durables, c'est un effet qui est transitoire.
Comme il nous reste qu'une minute, je vais vous laisser la parole pour un petit mot de conclusion sur ce sur ce sujet, voilà, qui questionne beaucoup.
Oui, alors moi je trouve que le plus intéressant c'est le fait que on soit, alors c'est peut-être ce que suggère notamment cette histoire de cytocine, d'attachement, on soit dans une médecine relationnelle. Hein, et c'est pour ça aussi qu'on dit que le placebo est aussi vieux que la médecine et que pendant donc des siècles et des siècles la médecine, et pourtant c'était une institution quoi, il y avait déjà des docteurs, des gens, ça n'était que du placebo, on faisait n'importe quoi, hein, les saignées, les trucs, c'est du grand délire, mais ça marchait parce que les gens allaient voir quelqu'un en qui ils avaient confiance, parce que c'était le docteur avec son chapeau pointu, tous ses attributs de l'époque, et que ça opérait quoi. Ça, et la médecine persistait alors que c'était une fumisterie parce que il y avait cette confiance qu'on plaçait dans le. Et donc vous voyez que on est vraiment dans l'aspect relationnel, et c'est pour ça que le placebo fait partie intrinsèquement de la médecine. C'est-à-dire que lorsqu'on est dans une relation de soins, on exerce un effet placebo. En tout cas, on devrait, parce que c'est quelque chose qui est quand même au bénéfice du sujet, et qui nous dit beaucoup de ça. Et la deuxième chose, c'est que c'est aussi frappant de voir comment les états qu'on peut induire chez les gens ont des effets sur le corps. Et ça, c'est un vieux dada que j'ai, alors, Jean-Yves, tu le sais, qui sont les relations entre le corps et le cerveau, et à quel point les deux sont la même chose, ont une seule chose, et je ressasse un petit peu ça. On a tendance un petit peu à introduire une coupure entre ce qui est là-haut et ce qui est là. Hein, c'est une tendance qui est probablement et quand même une tendance 21e siècle, hein, liée à plein de facteurs, dont l'analogie informatique, hein, le fait qu'on est entouré de systèmes informatiques qui fonctionnent avec un software, un hardware. Donc voilà, notre software, il est là. On se voit un peu comme ça, alors que ça n'est pas comme ça. nous sommes d'abord un corps hein, qui vit des expériences, etc. Ensuite, on a un système qui est là pour nous raconter des histoires à propos de ce qui nous arrive, hein, ou ce qu'on anticipe, ou ce qu'on va faire, etc. Mais nous sommes d'abord un corps et un seul corps. Voilà. Il n'y a pas de coupure. On n'est pas là-haut tout seul avec un truc qui nous embarrasse en dessous. Voilà.
Docteur Laurent Vercueil, merci infiniment. Si dans... vous voulez prolonger un petit peu les histoires de Laurent, je vous invite vraiment à découvrir ses livres. Ils sont passionnants et vraiment accessibles. Là, l'histoire du cerveau en BD est vraiment très très accessible. Et puis La Belle au bois d'Or... Enfin, La Belle... Non, redis-moi le titre. La Belle au bois d'Ortel, vraiment, où Laurent reprend tous les contes au regard du neurologue, et ça, c'est vraiment passionnant. Les prochains rendez-vous, attention, il y a une petite boulette dans les dates. Le prochain rendez-vous, c'est le 27 avril l'histoire des femmes et pourquoi ont-elles disparu des livres d'histoire. C'est dans le cadre de l'exposition sur l'égalité femmes-hommes. Vous pouvez prendre les plaquettes puisqu'elle va ouvrir ses portes le 8 avril. Donc la bonne date, c'est le 27 avril après les vacances scolaires. Et sinon, le prochain rendez-vous, c'est le 25 mars, ici même avec Hugo Mansou, pour nous parler du glacier du Baounet. Je regarde Fabien. Merci à vous et je vous souhaite un très bon après-midi et à très bientôt. Au revoir et merci encore Laurent.